Alors, bonjour à tous. Ce matin, donc c'est moi qui vous conduis dans l'étude de la parole. Ça aurait dû être tard à ma place, mais bon, il devait déménager ses filles qui reprennent la fac dans quelques jours. Donc c'est moi qui le remplace. Et ce matin, je voulais partager avec vous un texte qui se trouve dans le livre de Daniel, un texte que si vous avez été à l'école du dimanche dans votre enfance, vous avez dû étudier, vous avez dû peut-être même coller des petites figurines qui racontent cette histoire. Donc ça se trouve dans le chapitre 6 de Daniel, et je vais lire les 13 premiers versets. Ça se situe à un moment où Daniel est déjà assez âgé en âge, hein. Donc il a été serviteur du roi, alors d'abord Nebuchadnezzar, ensuite de son fils Balthazar, et il y a un changement de régime, hein. Vous savez qu'à ces moments-là, les peuples partaient à la conquête de ces vastes empires. Et donc les Mèdes prennent Babylone, où se trouve Daniel. Et donc on arrive au ce début de chapitre 6. Et Darius le Mède, âgé d'environ 62 ans, accéda au pouvoir impérial. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout l'Empire. Il plaça au-dessus d'eux trois ministres, auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour les intérêts de l'empereur, pour que les intérêts de l'empereur soient préservés. Daniel était l'un de ces trois, et bientôt il se révéla plus capable que les deux autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi l'empereur songeait à le mettre à la tête de tout l'Empire. Alors les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire. Mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence ni faute. Ces hommes-là conclurent donc: nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce ne soit en relation avec la loi de son Dieu. Alors ses ministres et ses satrapes se précipitèrent chez l'empereur et lui parlèrent ainsi: que l'empereur Darius vive éternellement! Tous les ministres de l'Empire, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs ont décidé à l'unanimité, en conseil, qu'il fallait publier un édit impérial pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque, pendant les 30 jours qui suivent, adressera une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, Majesté, établis cette interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, l'empereur Darius signa le décret portant l'interdiction. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Et je vais m'arrêter là. Alors, vous connaissez probablement la suite donc de ce passage, hein. Donc les ministres, les hommes qui ont formé cette conspiration, découvrent Daniel chez lui en train de prier. Ils se précipitent chez l'empereur, ils disent: voilà, tu as signé le décret comme quoi c'était interdit. Alors l'empereur, évidemment, n'est pas content de ça. Il cherche un moyen pour échapper à l'obligation de condamner Daniel, mais les autres insistent. Et finalement, donc, il va mettre Daniel dans la fosse au lion en lui disant que ce Dieu que tu sers te délivre. Ils enferment Daniel, ils scellent la porte, et le lendemain matin, Daniel est toujours vivant et proclame que le Seigneur a envoyé un ange qui a fermé la bouche des lions. Et
Et donc le roi donc le fait sortir de la fosse. Il y précipite les ministres qui ont formé la conspiration avec leurs femmes et leurs enfants, nous dit le texte. Et il publie un édit disant que chacun doit dans l'empire doit craindre le dieu de Daniel. Et ça se termine, cette histoire donc se termine comme ça. Évidemment, alors cette délivrance miraculeuse met en avant la toute puissance de Dieu, mais au bout du compte, c'est pas vraiment ça le cœur de ce passage. Le cœur de ce passage, c'est évidemment la foi de Daniel et les décisions en fait qu'il prend, et c'est là-dessus qu'on va se focaliser. C'est intéressant d'ailleurs de constater que le nom même de Daniel, si on le décompose, enfin son étymologie en hébreu veut dire Dieu est mon juge. Dieu est mon juge. Et en effet, la vie de Daniel nous montre combien il a été capable, dans toutes ces circonstances, de considérer sa vie non pas au regard des hommes, mais au regard de Dieu, et combien il a mis en œuvre ce nom qu'il portait, que Dieu était son juge. Il a vécu une vie centrée sur Dieu. Alors, on peut voir ça dans différents aspects de sa façon de vivre. Une des premières façons, c'est de voir comment est-ce qu'il a écrit son livre de Daniel. Et par exemple, quand il raconte comment les Assyriens sont venus prendre Jérusalem, il nous dit: Dieu a livré le roi Jéhoiakim entre les mains de Nebuchadnezzar. C'est pas Nebuchadnezzar avec toute sa puissance qui prend ce qui appartient à Dieu. C'est Dieu qui remet le roi à cause de la désobéissance du peuple. À cause de sa désobéissance, il remet ce roi entre les mains du roi tout-puissant de l'époque, celui qui conquiert le monde tel que le connaît Daniel, ce roi aux armées toute-puissantes. Mais Daniel voit pas ça, lui. Ce qu'il voit, lui, c'est Dieu qui remet et qui utilise finalement la puissance des hommes pour accomplir son plan. Il voit l'histoire selon le regard de Dieu, parce que c'est Dieu qui juge. Ensuite, dans sa façon de manger, on le voit quand il se retrouve à la cour du roi, il fait partie de ces jeunes hommes qui ont été emmenés et qui vont être éduqués selon pour devenir des serviteurs du roi. Et quand il se retrouve à la cour en train de devoir manger les mets donc préparés pour le roi, des mets aussi probablement associés au culte des idoles, Daniel va refuser de s'alimenter comme les autres. Il va choisir de vivre une vie qui soit conforme aux prescriptions de Dieu, dans ce que Dieu a demandé au peuple par rapport à la façon de se nourrir. Dieu va être son juge aussi dans la façon dont il va servir le roi. Alors on le voit dans ce passage-là, hein, Daniel est un homme intègre. Non seulement intègre même, il est même zélé. On le voit, ni négligence, ni faute dans sa façon de servir. Et quand on voit la façon dont il a servi les rois précédents, alors vous vous rappelez cette histoire de l'interprétation du rêve du roi. Quand on va lui demander d'interpréter ce rêve, eh bien Daniel va d'abord rendre gloire à Dieu. D'accord ? Il ne va pas prendre pour lui la capacité que Dieu lui a donnée de comprendre ce rêve. Il va dire, voilà, c'est le Dieu qui est dans le ciel, comme on l'a lu ce matin, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui m'a donné la capacité d'interpréter. Et il va même aller jusqu'à critiquer le roi. Quand il va interpréter ce rêve, il va lui dire, voilà, tu as commis une faute. Et c'est pour ça que Dieu va te punir. Il va parler avec vérité, sans chercher à flatter finalement le roi. Contrairement, on le voit ici aux autres ministres, qui quand ils commencent à parler au roi Darius, qui vivra éternellement. Non, bien sûr que non. Les rois vivent pas éternellement, mais bon, Daniel, quand il va parler au roi, il va pas parler comme ça. Il va parler avec vérité, avec ce que Dieu lui a donné, parce que Dieu est son juge. Et finalement, dans sa façon de prier, et c'est en particulier donc ce qu'on voit dans ce passage, ce qu'on va étudier plus particulièrement, dans sa façon de prier son Dieu, eh bien, il va s'y consacrer. Il ne va pas le faire d'une façon, on va dire, en dilettante, de façon intermittente. Il va se consacrer à cette prière. Il va prier d'une façon courageuse. C'est ce qu'on voit là. Une façon qui met sa vie en danger. Il va le faire d'une façon disciplinée, tous les jours, plusieurs fois par jour. Daniel, c'est pas un prêtre. C'est pas un homme dont le métier serait de prier, dont le métier serait d'être en relation avec Dieu. C'est un homme politique, particulièrement puissant, placé donc parmi les trois qui gèrent le royaume, qui gèrent l'empire, promis à être même celui qui va être le premier parmi ces trois. Et pourtant, Daniel va consacrer du temps à la prière. Et il va y consacrer même tellement de temps que cette relation à Dieu va devenir célèbre. Elle va devenir connue. Et ce passage, on le voit, nous montre que pour ceux qui le regardent, c'est même sa seule faiblesse. D'accord ? Le seul moyen qu'ils arrivent à trouver pour pouvoir l'attaquer, parce qu'évidemment, dans un milieu aussi idolâtre que pouvaient l'être les empires assyriens, babyloniens, mèdes et perses, la façon aussi de diviniser le roi, concept qui va être repris par les Romains, par exemple, après, évidemment, cette fidélité à Dieu, eh bien, c'est un moyen de trouver une faille. Et donc, ces hommes qui recherchent le pouvoir, eh bien, vont utiliser cette faiblesse pour attaquer Daniel. Et donc, regardons comment est-ce que Daniel va répondre à cette attaque contre lui. Et donc, le verset 11 est là-dessus particulièrement important. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem, et trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu, et il continua à le faire comme auparavant. Première chose qu'on voit, c'est que il fait ce choix en pleine connaissance de cause. D'accord ? Il apprend que le décret a été signé, d'accord ? Cette signature, c'est répété plusieurs fois, la loi des Mèdes et des Perses, immuable, Donc c'est un engagement que le roi ne pourra pas renier. Donc il comprend ça. Et c'est intéressant de voir qu'il ne cherche pas à rationaliser, en fait. Il ne cherche pas d'excuses, de moyens de se dire « Bon, bah, ok, je vais accéder à la direction de l'Empire. Je vais pouvoir faire plein de bien, plein de bonnes choses à cette position. Donc, pourquoi tout risquer ? Je pourrais attendre 30 jours. 30 jours, hein, c'est pas si énorme que ça. J'attends 30 jours. Hein, et puis après, je pourrais continuer et faire du bien. C'est pas comme ça qu'il réagit. Hein, il prend la décision consciente de prier. Malgré l'ordre du roi, malgré la punition promise de la fosse au lion, eh bien il choisit malgré tout de prier. Et pour prier, il ne se cache pas. D'accord ? Il aurait pu aller on sait rien, peut-être qu'il avait sûrement une résidence secondaire quelque part dans les bois. Voilà. Bon, non, il va pas dans sa résidence secondaire, il reste chez lui à Babylone, dans sa maison, où tout le monde sait qu'il est. Il choisit pas d'aller dans une chambre fermée, dans un coin secret de sa maison. Il décide d'aller dans la chambre haute, avec les fenêtres ouvertes, les fenêtres qui tournent vers Jérusalem, et il prie, alors ouvertement, plusieurs fois par jour, d'accord ? Et clairement, en faisant ça, on comprend bien que c'est un défi à l'autorité du roi. C'est un défi à l'ordre qui lui a été donné. Il refuse de se plier à cet ordre. Et il le fait d'une façon visible par tous. Et le texte nous dit même que il continua à le faire comme il le faisait auparavant. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'il décide de faire à ce moment-là comme une espèce de pied de nez. Hein. C'est pour lui une activité régulière, quelque chose qu'il fait de façon habituelle, et il décide que cette discipline qu'il a, cette façon d'être avec Dieu, eh bien, il va la continuer. D'accord ? Donc c'est ce que nous raconte ce verset de l'attitude de Daniel. Et évidemment, on peut se demander en quoi cette attitude-là est un exemple pour nous. Alors, évidemment, on sait que ce Daniel a été un modèle de foi. Et ce livre nous raconte un engagement à servir Dieu qui est extraordinaire. Mais en particulier dans sa relation à la prière. Alors évidemment, il y a d'autres passages qui nous parlent de la prière et qui nous en parlent d'une façon peut-être un peu différente. On sait que, en particulier dans le Nouveau Testament, par exemple, que parfois la prudence est une sagesse. D'accord ? Il y a des passages qui nous disent, voilà, soyez prudents, d'accord ? Comme si vous étiez au milieu des loups. Donc, bien sûr, parfois, pour servir Dieu, on doit être prudent. Et on a plein d'exemples, hein. Dans l'histoire de l'Église où des croyants se sont cachés pour continuer à servir Dieu, d'accord ? Même dans les actes, hein, par exemple, hein, on voit bien qu'ils se réunissent, ils se mettent pas au milieu de la place pour se réunir, hein, ils se cachent parce qu'il y a une persécution. Plein d'exemples où finalement le service de Dieu est un service caché. Il y a aussi un autre passage, par exemple, qui nous parle de la prière, et quand Jésus nous dit, par exemple, quand tu pries, Hein, ne te mets pas au milieu, mais va dans une pièce cachée et en secret, prie ton Dieu, parce que ton Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur. Et bien sûr, on entend ces recommandations-là et on comprend aussi pourquoi elles sont faites. Cette prière cachée est d'abord une façon d'exprimer une vérité intérieure dans notre relation à Dieu qui n'a pas besoin d'être publiée parce que on n'a pas besoin de chercher les louanges des autres. D'accord ? Bon, là, il ne s'agit pas pour Daniel de chercher les louanges. Hein, on le voit bien, au contraire, hein, la façon dont il va prier ne va pas lui attirer de louanges du tout. Au contraire, ça va lui attirer une condamnation à mort. Mais donc, Daniel, là, fait le choix de prier au su et au vu de tous. Je pense que c'est intéressant aussi de voir peut-être pourquoi est-ce que... Alors, le texte ne nous dit pas pourquoi est-ce que Daniel fait ça. Malgré tout, je peux pas... moi, la façon dont je le comprends, et je le laisse à votre intelligence, hein, Daniel répond à une situation d'idolâtrie. Cette étude, hein, j'ai lu quelques prédications en fait là-dessus de prédicateurs américains, et assez étonnamment en fait j'ai pas trouvé de critique en fait du roi par exemple, d'accord, dans tous ces prêches américains, je sais pas pourquoi, mais alors que pour moi ce roi, ce Darius, est un exemple de roi idolâtre. D'accord ? Quand on lui propose de devenir le sujet d'adoration de son peuple, il dit « Mais bien sûr, je signe. » Alors, dans des précédents messages, je vous avais dit que un jour, il faudrait qu'on reparle ces histoires de signes de la bête, etc. Eh bien, voilà. Pour moi, là, typiquement, ça c'est une préfiguration, finalement, de ce qui nous attend, hein, dans la fin des temps. Parce que la bête va demander aux hommes d'adorer un autre Dieu, d'adorer un homme politique. C'est ça le signe de la bête. D'accord ? L'adoration d'une figure publique et politique. Et à mon avis, si on a quelque chose sur lequel il faut qu'on soit vigilant et intelligent, c'est bien ça. C'est de savoir à quel moment le monde... À quel moment l'esprit du monde, à quel moment Satan va nous conduire, va conduire les hommes à adorer un autre Dieu et à présenter un homme puissant comme étant le Dieu à adorer. Et c'est exactement ça qui se passe pour Daniel. On lui dit, voilà, il faut adorer ce roi, qui vivra éternellement. Bon. Et Daniel décide que non. Que lui, eh bien, non seulement il n'adorera pas ce roi, mais en plus il va décider d'adorer son Dieu devant tous, en défiant cette autorité pourtant toute puissante. Ce texte nous montre aussi comment est-ce que cette prière en fait reflète la relation de Daniel avec Dieu. On voit que donc, dans ce texte, il nous est dit Donc il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Donc je vous l'ai dit, hein, Daniel, c'était un homme politique puissant qui avait à gérer tout un empire. Il avait sûrement un poids, on va dire, à porter sur ses épaules, une responsabilité énorme. Alors sans parler du danger de sa position qu'on voit là, mais des responsabilités dont dépendait probablement la vie de milliers, de centaines de milliers de personnes. Et alors Daniel, eh bien, va tous les jours chercher la volonté de Dieu pour lui. Et j'ai envie de dire, mais même plus que ça, parce que ce texte nous dit que dans sa prière, eh bien, il y avait une place pour la louange. Daniel ne cherche pas seulement à avoir des solutions de la part de Dieu. Daniel cherche, eh bien, la présence de Dieu. Parce qu'il se tourne vers lui pour le remercier. Pas simplement pour recevoir, mais aussi pour donner. Trois fois par jour, Daniel trouve dans son cœur, dans sa vie, des raisons de remercier Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Et on peut voir que finalement, la vie de Daniel est construite, eh bien, sur cette relation à Dieu. Elle est construite sur cette dimension, voilà, sur cette dimension de prière de sa vie. Alors il prie trois fois par jour en se tournant vers Jérusalem. Alors évidemment, moi ça me fait penser à une autre façon de prier, hein, qu'on connaît autour de nous, hein. Vous savez, hein, qu'un des piliers de l'islam, hein, c'est de prier cinq fois par jour en se tournant vers la Mecque. Bon. Alors, bon, moi quand je prie, je ne me tourne pas vers Jérusalem, évidemment. C'est pas forcément une façon d'organiser ma prière que à laquelle je vais souscrire ou utiliser. Malgré tout, ce qui m'impressionne là-dedans, c'est la dimension de volonté et de discipline. D'accord ? Quand je parle de ce pilier de l'islam, il y a un côté où, alors, je vais le dire comme ça, mais il y a un côté où finalement, j'admire la fidélité de ces musulmans qui décident cinq fois par jour d'arrêter ce qu'ils font pour prier Dieu. D'accord ? Je ne sais pas ce qu'il y a dans leur cœur. Bon, évidemment, il y a probablement une part de légalisme en le faisant. D'accord ? Malgré tout, je pense qu'une des puissances de l'islam, elle se trouve aussi là-dedans. Dans le fait que... eh bien, il y a une discipline à se tourner vers Dieu et à lui donner une place. Et je pense malgré tout que Dieu parle aussi à ces hommes qui, même s'ils suivent un chemin d'égarement, malgré tout cherchent à se tourner vers Dieu. Bon. Donc, Daniel se discipline pour prier plusieurs fois par jour, pour que cette relation à Dieu fasse partie de sa vie, de son lever jusqu'à son coucher. Alors je le dis, moi je ne suis pas quelqu'un de discipliné. J'ai du mal à m'imposer des contraintes comme ça. Et pourtant, je vois les impacts de cette discipline dans la vie. Alors ici, dans la vie de Daniel, ça m'est déjà arrivé au cours de ma vie d'avoir des disciplines qui ressemblent un peu à ça, et j'en ai mesuré le fruit. Et quand j'ai parlé de légalisme, alors le légalisme et la discipline, ce sont effectivement deux choses différentes. D'accord ? Le légalisme, c'est de chercher à plaire à Dieu par ses actions, d'accord, d'acheter finalement la grâce, d'acheter la miséricorde de Dieu pour nous. C'est ça le légalisme. Ici, il n'est pas question d'acheter la bénédiction de Dieu. Il est question de nourrir sa foi, de nourrir sa relation à Dieu, de mettre de l'énergie, du temps, de la valeur dans cette présence de Dieu dans ma vie. Je ne suis pas très fort en jardinage, mais je sais que pour pour qu'une plante pousse, il faut l'arroser, il faut lui donner de l'engrais, il faut tailler les herbes qui peuvent pousser autour. Il faut s'y investir. D'accord ? Et plus on s'y investit, plus on lui donne ce qu'il faut, et bien plus mieux cette plante va pousser. Et la discipline, c'est un peu la même chose. C'est reconnaître que dans la relation à Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui vaut la peine de s'y investir, qui vaut la peine de lui donner du temps et de l'énergie. Et on voit que c'est ce que fait Daniel. Il va même, donc cette relation à Dieu, et je vais m'arrêter avec ça, cette relation à Dieu, elle est même suffisamment importante pour que Daniel décide de risquer sa vie pour elle. De risquer sa vie pour témoigner de la vie qu'il y a dans la relation qu'il a avec son Dieu. Quand il choisit de tenir tête à l'ordre de l'empereur, il connaît la sentence, hein, c'est écrit, celui qui priera un autre Dieu que le roi, eh bien, sera jeté dans la fosse aux lions. Alors, il sait ce qui va lui arriver. Il n'a aucune certitude sur ce que Dieu va faire. Le texte ne nous dit pas que Daniel a reçu un rêve ou une visite d'un ange lui disant « Vas-y, t'inquiète pas, je vais être là. » Daniel, vit comme... alors, il a vécu des choses extraordinaires avec Dieu, hein. Il a reçu des interprétations de rêves, hein. Il a vu ses amis Ashrak, Meshrak, Abednego être libérés de la fournaise. Il a vu ça. Mais je pense qu'il a dû aussi voir des gens mourir autour de lui sans que Dieu intervienne. Hein. Ces interventions miraculeuses de Dieu sont exceptionnelles. Donc quand Daniel s'engage sur ce chemin-là, eh bien, je pense qu'il a la même attitude que celle qu'avaient eu ses trois amis, qui ont dit, bon ben, si Dieu n'intervient pas, il reste mon Dieu. Et je choisis de lui obéir, même si je dois mourir. Donc il décide que cette relation à Dieu, vaut plus que sa vie. Alors bien sûr, c'est un exemple, et c'est aussi quelque chose à laquelle nous devons réfléchir. Hein. Alors on vit dans un pays où le prix de la foi, le prix de la foi est pas celui-là. Hein. On est libre de prier. Alors je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Hein. La Bible n'est pas très optimiste, hein, sur ce qui est devant nous. Évidemment, je connais ni le jour ni l'heure, mais malgré tout, la Bible nous met en garde sur le refroidissement spirituel. Elle nous met en garde aussi sur l'idolâtrie qui vient. Et je pense qu'en lisant ces textes, on peut se préparer et se poser déjà la question de alors jusqu'où je suis prêt à aller. Bon, c'est peut-être le Seigneur est avec chacun d'entre nous et il ne faut pas Pierre On le sait, penser que sa foi allait suffire, et manifestement, elle n'a pas suffi, mais nous pouvons déjà, alors au moins, choisir de nous investir, choisir de centrer notre vie sur Dieu, comme Daniel l'a fait dans tous ses choix de vie, hein, les uns après les autres, quand il a choisi de vivre sa vie selon Dieu, parce que c'est Dieu qui est son juge, pas les hommes, pas la société, pas la mesure utilisée pour juger sa vie, c'est pas la mesure des hommes, c'est pas une mesure de prospérité, c'est pas une mesure de j'en sais rien. Voilà, toutes les valeurs que peuvent mettre en avant notre société et qui changent au cours du temps, mais voilà, pour Daniel, c'était Dieu son juge. Et il a construit sa vie en investissant dans une relation régulière avec Dieu. Je me le dis évidemment, de ne pas avoir peur finalement de la discipline. De ne pas avoir peur, finalement, de se contraindre, parfois, à aller contre notre nature, qui a envie de prendre son temps, mais de ne pas hésiter, oui, à donner du temps et de l'énergie à la prière. Paul nous dit prier en tout temps, donc c'est peut-être pas nécessaire de décider de prier le matin, à midi et le soir. On peut aussi décider de prier tout le temps, mais de prier d'une façon, j'ai envie de dire, disciplinée, comme Daniel le faisait, en exposant nos besoins, mais aussi en remerciant le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Parce que ce dont nous avons besoin en premier lieu, c'est de la présence de Dieu dans notre vie. Et je vais m'arrêter là. Que ce privilège qu'on a aujourd'hui de prier comme on veut, autant qu'on veut, qu'on puisse le saisir et glorifier Dieu à travers ça. Merci. Thank you.